voix nue. Cette semaine, Antoine Beauchamp rencontre Alain Prochian. Ce soir, ni Dieu, ni nature, mais des maîtres.
Bonsoir Alain Prochian.
Bonsoir.
Voilà deux soirs que nous nous retrouvons pour
converser. C'est le troisième aujourd'hui.
Voilà, c'est le troisième soir, mais on a conversé pendant deux soirs d'affilée autour de votre formation de scientifique, de votre découverte majeure dans les années 80, qui a été difficile à faire admettre concernant certaines homéoprotéines et leurs fonctions. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de vos maîtres. Vous en avez beaucoup, des scientifiques comme des non-scientifiques. Et je voudrais comprendre un petit peu comment ces maîtres ont infusé dans vos travaux de recherche et de quelle aide ils ont été pour vos travaux de recherche.
Bah, c'est compliqué, parce que différents types de maîtres. Hein. J'ai toujours lu de l'histoire des sciences. Et ça me vient, si vous voulez... c'est peut-être la seule chose que j'ai pu apprendre à l'école normale, supérieure, comme on dit, c'est à grâce au contact avec des non-scientifiques. C'est là que j'ai rencontré des philosophes. C'était l'époque de Louis Althusser, c'était l'époque... canguilhémienne hein, en histoire des sciences. Et donc, j'ai lu, il y avait Dominique Lecourt, il y avait Étienne Balibar, il y avait Philippe Macheret, il y avait tous ces gens-là. Donc, c'est une grande chance, en fait. En fait, vous savez, c'est ça la chance. Hein. C'est un peu comme le Collège de France. C'est-à-dire qu'on est au contact de gens qui sont très différents de soi et qui peuvent vous apprendre des choses, vous ouvrir. Alors, quand on a évidemment 20 ans, 21 ans, 22 ans, c'est comme d'entrer dans un magasin de chocolat. Et donc, j'ai tout de suite commencé à lire de l'histoire des sciences. Et au fond, mon premier maître, ça a pu être Canguilhem, d'une certaine façon. Parce que ce qu'il disait sur les études sur le vivant, hein, il a écrit essentiellement, c'est un biologiste, c'est un philosophe du vivant. Hein, donc, ça a été pour moi un sujet de réflexion, parce qu'il écrivait beaucoup sur Claude Bernard et sur Darwin. Et donc, ça m'a introduit Ben, je dis, bon, ben, je vais aller lire Claude Bernard, puis je vais aller lire Darwin, et puis Bergson, même s'il ne cite pas beaucoup Bergson, il le vole un petit peu, mais il ne cite pas énormément. Mais enfin bon, donc ça, c'était de fil en aiguille, j'étais amené à lire beaucoup des ancêtres et à m'intéresser à la façon dont se construisent les objets biologiques. Parce que la chose qu'il faut absolument comprendre, c'est qu'un objet biologique, ce n'est pas un objet biologique, c'est-à-dire que cette main n'est pas un objet biologique. Cette main peut très bien être un objet physique, c'est-à-dire que si je la, si je tire ça, voilà. Darcy Thompson, il travaillait sur les objets biologiques comme des objets physiques. Donc, la théorie physique, bon, c'était une espèce de post-newtonisme un peu bêta, mais bon, s'appliquait sur ces objets biologiques. Mais un objet biologique, c'est l'objet plus la théorie qui peut en rendre compte. Par exemple, le développement, la reproduction, l'évolution, c'est quelque chose qui sont des concepts en biologie, ce ne sont pas des concepts de physique. Et donc, comment se construit un objet scientifique, en particulier le vivant? J'ai commencé à m'y intéresser énormément. C'est là que, je pense, mes lectures, le grand maître, c'est un grand mot, mais les lectures les plus enrichissantes pour moi sont été celles de gens avec qui je me suis trouvé un peu en désaccord malgré tout, par exemple Darcy Thompson, hein. Et puis énormément Claude Bernard. À l'époque, j'ai écrit un petit livre sur Claude Bernard dans la collection philosophique, et Claude Bernard et la révolution physiologique, au PUF. 90, hein. Ouais. Et parce que j'étais fasciné par ce type, parce que pour moi, ce type, c'était comme pour tout lycéen, cet emmerdeur, quoi, ce type, c'est une sorte de méthode expérimentale, introduction à la méthode expérimentale, mais c'est pas lisible, je veux dire, ça vous tombe des mains. Donc évidemment, Claude Bernard avait une mauvaise réputation, mais si on lit tout, qu'on comprend comment ça se passe, dans quel contexte, et le type qui se dit, mais non pas une méthode pour trouver, mais l'étonnement de comment ai-je trouvé? Parce que c'est ça, la vérité. C'est jamais une méthode pour trouver. S'il y avait une méthode pour trouver, tout le monde trouverait. Hein. Le problème, c'est, la question, c'est, comment ai-je trouvé? Me suis-je trompé? Hein. Et ça, c'était extraordinaire chez Claude Bernard. On le retrouve chez Darwin. Espèce d'angoisse du type qui se dit, j'ai craint d'avoir passé toute ma vie sur une chimère. Vous voyez ça? Donc ça, c'était extrêmement intéressant de lire ces gens-là de ce point de vue, en même temps que du point de vue de gens qui font partie de l'histoire des sciences et qui donc ont contribué à la construction de l'objet sur lequel vous travaillez, parce qu'ils ont contribué à l'élaboration des théories sur lesquelles vous travaillez et que vous voulez faire évoluer, parce qu'une théorie qui n'évolue pas, c'est une religion. Donc, les théories scientifiques, ça bouge tout le temps. Hein, c'est pas un dogme. Donc, tout ça, ça a été pour moi une période très riche de ma vie, et elle continue, c'est-à-dire que j'ai jamais arrêté de lire les anciens. Et pas parce que, par souci de culture, je m'en fiche, mais parce que c'est des choses qui me permettaient de comprendre les objets sur lesquels je travaillais. Turing était un émerveillement pour moi, la lecture de Turing, c'était extraordinaire. Donc oui, ça, ce sont les maîtres absolus, je dirais.
La Sainte Trinité, c'est Claude Bernard, Darwin, Alan Turing.
Probablement ceux que j'ai le plus lus. Mais j'ai beaucoup aimé Lamarck aussi. Oui, on parlait il y a 3 jours de la conversation entre amis. Ils font partie de cette conversation entre amis. C'est-à-dire que je passe pas une journée sans penser à l'un d'eux. C'est bizarre, hein, comme un parent disparu ou laissé à l'hôpital. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, oui, ça, c'est les maîtres, c'est les vrais maîtres. Et puis, c'est les maîtres qu'on se choisit aussi, hein, et puis qui vous influencent. C'est aussi des maîtres en vie, hein, parce que ce sont des gens qui ont eu des histoires difficiles. Hein. Le petit Claude Bernard, il a une femme pas facile, il pouvait pas travailler, sa femme s'est inscrite à la Ligue de défense des animaux, fondée par Victor Hugo. Puis il a eu des difficultés. Il était malade. Bon. Et puis Darwin, il a longtemps eu été habité par le doute. Hein. Il avait écrit, je crois, c'est à Lyell. Il avait envoyé son livre là sur la descendance de l'homme à Lyell. Et Lyell lui a répondu. Il avait cru que Lyell c'est un grand géographe britannique. Il lui a répondu et Darwin avait pensé que Lyell était d'accord avec lui. Lyell était d'accord avec lui jusqu'à Sapiens, mais pas pour Sapiens. L'évolution, c'était bon jusqu'au singe, hein, mais pas après. Et Darwin répond en disant « Ah, je suis tellement heureux que vous ayez aimé mon livre. J'ai tellement longtemps cru que j'avais travaillé toute ma vie sur une chimère, hein, ce que je disais hier. » Et là, vous voyez qu'il y a quelque chose d'incroyablement fragile, ces gens qui ont quand même révolutionné l'histoire des sciences. Hein. Et Turing, c'est pareil, vous savez comment ça s'est passé.
On peut le rappeler.
Turing a fini par se suicider en mangeant une pomme qu'il a laissée tremper dans du cyanure.
Alan Turing, immense mathématicien.
C'était un très grand mathématicien. C'était un très grand philosophe, parce qu'il a écrit un livre de philosophie qui s'appelle « Les machines pensent-elles » dans la revue Mind, qui est éblouissant. Hein. Et puis, c'est un grand morphogénéticien. Moi, j'ai découvert à travers la théorie des morphogènes. Parce que, en fait, ces homéoprotéines dont je vous parlais hier avant-hier, ce sont des morphogènes au sens de Turing. C'est exactement des morphogènes au sens de Turing. Et je ne l'ai compris qu'après avoir lu Turing. C'est-à-dire, et j'ai lu Turing grâce à Jean-François Perrette. On en parlera peut-être un jour.
Oui. Hein.
Vous voyez, conversation entre amis aussi avec un non-scientifique, Jean-François, et qui m'a énormément nourri mes lectures et ma recherche. Et vous voyez, tout ça, c'est... Oui, alors, évidemment, il y a aussi les grands scientifiques, pas trop morts encore, je dirais, ou à peine refroidis. Par exemple, Barbara McClintock, la fille qui a découvert les transposons, l'instabilité des génomes. En travaillant sur le maïs ou sur les plantes, et elle voyait d'un coup des grains de maïs qui changeaient de couleur. Et elle a découvert que c'était lié à des éléments mobiles dans le génome, qu'on appelle des transposons. Et elle a probablement fait une des plus grandes découvertes du siècle passé, mais aussi actuel, sur l'instabilité des génomes. C'est quelque chose qui aujourd'hui est nécessaire pour comprendre toutes les grandes pathologies, que ce soit le cancer, l'Alzheimer, le Parkinson. Tout, quoi. Oui, les gens qui disent « touche pas à mon génome », vous rigolez, mais le génome, ça se casse tout le temps, ça se répare tout le temps, ça saute dans tous les sens. C'est pas un texte sacré non plus. Donc, mais elle a découvert ça. Elle a été ignorée pendant 20, 30 ans. Elle a fini par lui donner le prix Nobel. On s'en fout un peu de ça, mais c'est une grande figure. Voilà. Donc là, voilà, vous avez dit une grande figure, voilà une grande figure, une femme extraordinaire. Puis il y a des gens qui sont encore vivants, mais je vais pas les citer parce que je veux pas les faire rougir. Leur modestie est extrême, vous savez. Mais il y a aussi des grands maîtres encore vivants, oui, qui ont été des guides, à la fois scientifiques, mais aussi des guides, je dirais, de façon de vivre. Non, je ne vais pas en citer, non. Je ne vais pas en citer, ils se reconnaîtront.
Dans ce que vous dites à Alain Prochian de vos maîtres, Darwin, Claude Bernard, Turing, vous dites que la part de doute qui les habite est quelque chose qui vous touche. Est-ce que, d'une certaine façon, vous avez trouvé une forme de réconfort dans la lecture de ces grandes œuvres scientifiques?
De réconfort, non, parce que j'étais pas un confort. Mais c'est intéressant de voir des gens qui sont beaucoup plus forts que vous. Il y a deux échelles, quoi. Vous ne pouvez pas vous mettre au niveau de Darwin, de Claude Bernard ou de Turing, c'est pas possible. Vous êtes un pygmée, quoi. Excusez-moi, ça pourrait être politiquement incorrect. Mais vous n'existez pas à côté de ces gens-là. Et en même temps, c'est magnifique que c'est comme les phares. Vous voyez, dans Baudelaire, il y a les phares. Voilà. Et il y a comme ça quelques phares qui donnent un sens, je dirais. Je ne crois pas que la vie ait de sens, mais d'une certaine façon, ça justifie le travail que vous faites, même si vous le faites à un niveau qui est infinitésimal par rapport à ce que ces gens ont pu faire ou découvrir. Et quand vous croyez que ces personnes qui sont immenses, eh ben, c'était des gens comme vous et moi, qu'elles étaient dans le doute, dans la paranoïa, l'hypochondrie. Darwin était hypochondriaque. Là, il a l'estomac tout le temps. Donc, ça les rend à la fois, c'est intéressant, cette espèce de proximité humaine, et en même temps d'infinie distance sur le plan intellectuel. Non, ça fait croire à la beauté de l'espèce humaine, un truc pareil, oui.
Cette lecture des anciens, des plus ou moins anciens, Alain Prochian, vous appelez ça la pratique, vous pratiquez ça comme une science dite nocturne. Quelle est la part d'importance de cette science nocturne par rapport à la science diurne? Comment vous divisez votre temps?
La lecture, c'est pas une science nocturne, c'est une activité, à mon avis, intellectuelle importante. La science nocturne, c'est... J'ai la chance d'avoir des problèmes de sommeil. Donc je passe beaucoup de temps les yeux au plafond. Et bon, vous savez, la nuit, tout devient dramatique, des fois... des choses qui prennent des proportions absolument absurdes. Quand ça, il est matin, je sais plus ne pas dormir à cause de cette bêtise. Mais c'est un moment où je cours aussi pas mal.
La course à pied.
Oui. Comme Turing. Mais moins bien que lui. Il était même meilleur en course à pied, voyou.
Donc, décidément bon en tout.
C'est bon en tout, oui. Mais le cette espèce de ressassement de conversations qu'on a comme ça, et on réfléchit à des objets biologiques et à un problème biologique qui vous occupe. Hein. C'est quand vous avez une vraie question qui vous occupe, elle vous occupe tout le temps. C'est un truc qui vous rentre dans le cerveau et dont vous pouvez pas vous débarrasser. Vous faites la vaisselle, vous y pensez. Vous dormez, vous y pensez. Vous faites l'amour, vous y pensez. À quoi tu penses? À toi, ah, bien entendu. Mais en fait, c'est l'homéoprotéine qui est là, qui circule. Et c'est et la nuit, vous y pensez. Et donc, c'est quelque chose qui vous travaille tout le temps. Évidemment, il y a de la rêverie dans cette chose-là. C'est-à-dire que y a les hypothèses qui se bousculent. Il y a c'est même pas des formes d'hypothèses, si vous voulez. C'est des choses qui sont inconscientes d'une certaine façon. Et puis, tout d'un coup, vous avez l'impression que vous avez mis le doigt sur un truc. Vous savez pas pourquoi. Donc, cette partie que, en fait, c'est de l'imagination. Cette partie imagination, on a tort. Alors, d'un côté, on a tort de dire que c'est pas de la science, et en même temps, on a raison de dire que ça ne suffit pas, parce que il y a trop de gens. Moi, ce que j'ai apprécié, si vous voulez, dans la façon dont j'ai été soumis à un tir assez fourni, c'est que ça m'a obligé à monter le statut de la preuve de plus en plus haut. Vous voyez, c'est-à-dire que c'était très positif. C'est pour ça que je me plains jamais. Ça m'amuse, je fais la retour, mais je ne me suis jamais plaint d'avoir été soumis à ces difficultés. Parce que ça vous oblige à pousser la preuve de plus en plus haut. Et donc, on a raison de dire, vous voyez, ces gens qui imaginent un truc et puis ils ont, voilà, c'est du pipeau, ça. Vous faites un truc difficile, mais petit, hein. Même petit, ça peut être difficile. Eh bien, il faut y consacrer le plus de rigueur, de temps, etc., possible, pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Il ne faut pas juste se contenter du plaisir immédiat d'avoir pensé qu'on a trouvé quelque chose d'intéressant, parce que 99 fois sur 100, c'est pas intéressant. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a cette partie-là qui est indispensable, mais il y a l'autre partie qui est aussi indispensable, c'est-à-dire la rigueur, les preuves, la preuve expérimentale. Hein, voilà, parce que je suis biologiste, donc il faut faire la preuve expérimentale. Donc ça, c'est, mais il faut les deux. Et souvent, quand on parle d'art et de science, moi, la seule chose que je vois qui est commune aux scientifiques et aux artistes et aux littéraires, c'est justement cette côté de l'imagination. Sauf que chez nous, il faut prouver. Et les autres, non. C'est le marché qui prouve.
Alain Prochian, si on revient à vos grands maîtres, notamment à Darwin, vous dites que avec l'origine des espèces, Darwin avait conscience de commettre un meurtre.
C'est pas moi qui le dis, c'est lui.
Est-ce que dans cette...
J'ai l'impression de commettre un meurtre.
En lisant ça, est-ce que finalement, la science a pour fonction première de semer le trouble?
Non. Je pense que la science a pour fonction première de produire des connaissances nouvelles. Si les connaissances nouvelles sèment le trouble, tant pis pour le trouble. Voilà. La fonction des sciences, c'est de rationnellement produire des connaissances nouvelles. Voilà.
Et d'aller à l'encontre de ces dogmes dont vous parliez.
Si les connaissances nouvelles vont à l'encontre du dogme, voilà, c'est comme ça. Je veux dire, si elles y vont pas, tant mieux. Je veux dire, parce qu'il y a des dogmes qui sont positifs. D'ailleurs, une recherche qui va être un tout petit peu antidogmatique va demain devenir le dogme. Et peut-être qu'il faudra la bousculer. C'est pour ça que les théories scientifiques sont évolutives. Donc non, c'est le contre-dogme d'un jour, le dogme du lendemain. Donc voilà, mais bousculer les choses de façon rationnelle, expérimentale, prouvée, argumentée, c'est faire de la science. Et moi, je suis tout à fait positiviste de ce point de vue. Non, je suis sérieux. Je pense pas que c'est de la rêverie. Je pense que la science, c'est sérieux. Voilà. La science, c'est du sérieux.
On peut le dire en souriant, c'est parfait. Parmi les autres maîtres, il y en a un qui est un peu étonnant, c'est Sade. En 1995, vous avez fait paraître un livre qui s'appelle « La biologie dans le boudoir » chez Odile Jacob, qui reprenait un petit peu la forme du dialogue philosophique pour nous expliquer la place qui, selon vous, est celle de l'homme vis-à-vis de la nature. Alors, Sade, pourquoi il a une place à part dans votre panthéon?
Il y a un livre « Attaquer le soleil », l'exposition de... Comment elle s'appelle,
sur la table,
Annie Lebrun, qui est là sur ma table. Là. Pas pour les raisons que vous croyez. Je pense que Sade a été noyé par la redécouverte de Sade par les surréalistes. Elle a été noyée dans la pornographie. C'est-à-dire que les gens n'ont vu que le côté pornographe.
Sulfureux.
En fait, ce qui m'intéressait beaucoup chez Sade, et qui m'intéresse toujours chez Sade, c'est le côté Montesquieu chez Sade. C'est la philosophie de la nature. C'est-à-dire que c'est le seul matérialiste conséquent du XVIIIe siècle, en incluant tous les autres, Diderot, Rousseau, Voltaire, tout ce que vous voudrez. C'est le seul qui dit ni Dieu ni nature. D'accord ? Ce qui s'est passé, si vous voulez, quand on a supprimé Dieu, entre guillemets, c'est qu'il est revenu sous la forme de la nature. Le grand livre de la nature écrit en langage mathématique. Mais au moins, Galilée, il était croyant, donc il avait au moins été conséquent. Et aujourd'hui, vous voyez très bien que cette référence à une nature est une référence d'une forme de religion de la nature. Et sous le XVIIIe siècle, il y a beaucoup de physiologistes qui voyaient que les règles morales, au lieu d'être transcendantes, divines, ils pensaient qu'elles étaient inscrites dans la région du cortex qui est importante pour l'amour filial, l'autre qui est importante pour ce que vous voulez. Et puis après, on a eu les chromosomes du crime, tout ce que vous voulez. On rentrait dans la nature des normes morales qui avant étaient de nature transcendante. Or, s'il avait quelque chose d'extraordinaire, Sade, c'est que t'étais ni Dieu ni nature. Voilà. Et c'est une philosophie de la nature qui est extraordinairement intéressante à lire, parce qu'évidemment, elle va, comme dit l'autre, au-delà du bien et du mal. C'est-à-dire que il n'y a plus de bien et de mal, il n'y a que des règles nécessaires pour vivre en société. Voilà. Et si on transcende ces règles, ce qu'il arrive, c'est ce qu'on voit au château de Siling dans les 120 journées. C'est-à-dire que c'est la loi du plus fort. Donc en fait, il y a quelque chose d'extraordinairement moral chez Sade, qui est une morale sociétale, et ni une morale naturelle, ni une morale transcendante. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse chez Sade. C'est le côté Montesquieu chez Sade qui m'intéresse. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui, malheureusement, est toujours... qui n'est pas bien lu, c'est quelqu'un qui est mal lu, qui est lu pour de mauvaises raisons. Même si, évidemment, ça peut être plaisant de lire les historiettes et fabliaux de Sade, parce que même moi, je peux encore y prendre du plaisir.
Alain Prochian, on va rester un petit peu dans le cadre de Sade. Cette désacralisation de la nature, pour vous, est-ce qu'elle est première, essentielle aujourd'hui?
Oui, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, parce que c'est quoi la nature? Nous sommes dans la nature. Sapiens est un animal, mais pas un animal comme les autres. Et donc, à la fois nous sommes dans la nature, et en même temps nous avons une prise sur la nature qui peut être catastrophique, hein, réchauffement climatique, et paf, on va dans le mur. Ça arrivera, hein, très probablement. Mais la nature, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas une référence. La nature, ça doit pas être un musée à conserver. Donc, oui, je pense que toute référence à la nature est de nature religieuse, si j'ose dire. J'ai jamais aimé les religions, voilà. Je n'ai rien contre les religieux. À un moment, ils viennent pas m'enquiquiner. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je suis pas du tout anti-clérical, ni anti-musulman, ni anti-pasteur, ni anti-ce que vous voudrez. Mais moi, j'entends qu'on foute la paix aux gens et penser ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, je vois, peut-être, je discutais hier soir avec Jean-François Perret, c'est peut-être à cause de cet effondrement, justement, de ces religions, d'une certaine façon, que peut-on ne pas croire, comme dit l'autre, il faut bien croire en quelque chose. Et maintenant, il y a cette croyance en une nature, avec un grand N, que je trouve dangereuse, parce que je pense que toutes les religions sont dangereuses. Je pense que la première cause de mortalité dans le monde, ça reste quand même la religion. Voilà.
Alain Prochian, en tant que scientifique...
C'est Sade, hein, qui dit ça, donc... Oui. pas moi.
En tant que scientifique lecteur de Sade, qui a désacralisé la nature, vous le disiez, est-ce que vous vous sentez finalement, parmi les nombreuses missions qui sont les vôtres, on va pas parler de missions entre guillemets, est-ce que l'une de vos missions, c'est de confirmer que l'homme est sorti de la nature et qu'il a une place à part, que l'humain a une place à part dans la nature?
Mais l'homme, il est dehors et dedans. C'est-à-dire que le problème, c'est de vouloir qu'il soit dehors, soit dedans. Nous sommes le produit de l'évolution. On le veuille ou pas, je veux dire, c'est comme ça. Il y a 7 millions d'années, l'embranchement des hominines s'est séparé de celui des pannes, hein, chimpanzés et bonobos. Et puis, voilà, on a amené notre petit chemin évolutif. Il y a eu des branches, hein, Néandertalis, Denisoviens. On est les seuls survivants de cette histoire, peut-être même les derniers hominines. Hein, mais on est là et c'est un succès incroyable sur le plan évolutif parce que quand même on était il y a 100, 200 000, 10 000, 20 000 il y a 300 000 ans quelque part en Afrique et parce qu'on est tous africains. Hein, et aujourd'hui on est quand même 7 milliards. Et on a envahi 70% du globe terrestre, on a mis 2 sur la Lune. Mais est-ce que les singes auraient fait ça? Non. Et pourtant, on est des singes. Donc on n'est pas des singes comme les autres. Parce qu'à la fois, on est des singes, et en même temps, on a eu, par un accident de l'évolution, un espèce de cortex. Je dis souvent, avec Jean-François, on a 900 cm3 de trop par rapport à ce dont on aurait besoin pour avoir une vie normale d'animal. Une vie d'animal normal, plutôt. Et donc, c'est 900 cm3 de trop. Ben, ça fait quoi? Ça fait les poètes, ça fait les suicidés, ça fait les savants, ça fait... ouais, c'est tout ce qu'on voit pas chez les singes. Voilà. Et donc, il faut assumer cette part de nature. On est des animaux. Et en même temps, il faut pas nier qu'on n'est pas des animaux tout à fait comme les autres. Quand j'écris sur les chimpanzés, c'est pas les chimpanzés qui écrivent sur moi. J'y peux rien, c'est comme ça. C'est un fait de science, ça, hein, d'observation banale. Quand vous regardez Notre-Dame... Même j'aime pas beaucoup Notre-Dame, vous le dites à personne. Mais quand vous regardez Notre-Dame, c'est pas une termitière avec un chimpanzé qui est en train avec sa brindille d'aller chercher. C'est pas pareil. Je veux dire, si vous regardez Sainte-Thérèse du Bernin, vous savez, encore, encore archidivin, ben c'est pas un chimpanzé qui lave des patates dans le fleuve Congo. Je veux dire, vous voyez, il y a de la culture chez les animaux. Il y a probablement de l'empathie chez les animaux, et il y a tout ce qu'il y a chez nous à un certain niveau, mais chez nous, ça a pris des proportions telles qu'on est comme sorti de la nature, mais par nature. C'est-à-dire que c'est le résultat d'une évolution naturelle, d'être sorti de la nature. Donc, il faut jouer sur ces deux choses, et puis il faut prendre le contrôle de notre propre évolution, c'est-à-dire que on est en train d'envoyer... Alors, on peut trouver ça pas grave. Après tout, tous les animaux ont un début, un milieu, une fin. Le jour où Sapiens ne sera plus là... Les autres proliféreront comme ils veulent, et puis, mais bon, la nature n'existera plus parce qu'il n'y aura plus personne pour en parler. Hein, faut quand même voir ça aussi parce que la nature n'existe parce qu'on peut la nommer. Hein. Donc, il y aura la nature, puis Sapiens sera plus là, et puis voilà. Mais on peut aussi se dire que c'est dommage. On veut voir pousser ses enfants, ses petits enfants, ses arrière-arrière petits enfants. Donc, faut peut-être arrêter le désastre que les scientifiques peuvent prévoir. Et puis, gérer la chose, gérer la biodiversité, pas forcément parce qu'il faut de la biodiversité, mais parce qu'elle est nécessaire à la survie de Sapiens. Il faut assumer l'égoïsme de Sapiens. Si on veut vraiment sauver la planète, c'est pas pour sauver la planète, c'est pour sauver Sapiens quand même. Et ça, ça veut dire qu'il faut y mettre tous les moyens, y compris le meilleur moyen qu'a Sapiens, c'est son cortex. Donc c'est effectivement la science, les sciences, les solutions techniques, etc., qui permettront de repousser le plus tard possible le moment final. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas de contradiction, il y a simplement ne pas se laisser aller à une pensée molle.
Alain Prochian, cette sortie de la nature, la conséquence qu'elle a sur Homo sapiens, elle est double, elle est à la fois biologique, à la fois philosophique. Vous parlez d'une forme de solitude de sapiens, une solitude insensée, et aussi vous êtes très attaché à cette notion d'individuation. Alors comment ces deux notions-là, d'individu, de solitude, se croisent ?
La solitude de sapiens, c'est le tragique, hein, c'est le tragique humain. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas les consolations de la religion, que ce soit les religions classiques ou la religion de la nature, vous êtes dans le grand fleuve de la nature, et puis voilà, ça sera des molécules, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Donc vous devez bien comprendre que Sapiens, mais aussi vous et moi, on a un début, un milieu, une fin. Voilà. Alors, c'est pas forcément marrant à penser, hein, quand on finit par s'habituer, quand on approche de la fin, c'est une raison. Mais c'est du tragique. Je pense que les religions n'ont pas d'autre cause que justement cette peur du vide. Il faut relire dans Jacques Monod le dernier chapitre du hasard et de la nécessité. Vous voyez, où nous sommes aujourd'hui 7 milliards d'individus sur un petit caillou qui est dans un désert de l'univers que vous n'imaginez pas, un vide sidéral, qui tourne à 100 000 km heure autour du soleil. Imaginez. On est là, on est en train de tourner à 100 000 km autour du Soleil. On tourne à 2000 km heure autour de notre axe. On est là accroché à ce petit caillou dans le vide. Vous croyez que c'est pas sidéral? Vous croyez pas que c'est angoissant, hein? Alors, il faut mieux penser qu'il y a un dieu qui tire tous les machins. Mais il y aura forcément un accident à cette vitesse, hein? C'est pas possible autrement. Donc, oui, il y a une vraie solitude. Sapiens est seul, parce qu'il est le seul à pouvoir penser ces choses-là. Un chimpanzé va pas vous raconter ça, je veux dire, c'est pas possible. Donc voilà, et donc il y a une vraie solitude de Sapiens. Il y a un vrai tragique de l'humain, mais c'est ce qui fait la beauté de l'espèce humaine, c'est une espèce tragique. Hein, les arts, les sciences, la littérature, tout ça, c'est aussi la gloire de ce tragique même. Donc oui, c'est beau. S'il y avait une raison de vivre, ce serait justement qu'on va mourir. Voilà, ce tragique-là, cette solitude, et ça, c'est peut-être la seule raison qu'on ait de vivre.
Du tragique à la littérature et au théâtre, on en parlera demain. Bonsoir, écoutez, à l'an prochain.
Bonsoir.
Merci beaucoup.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Antoine Beauchamp avec Alain Prochian. À voix nue, réalisation Vincent Deck, prise de son Yann Fressy, coordination Sandrine Trainer, attachée de production Daphné Abgral. À voix nue, se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.